Club Naturo sur Nutri Radio.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission Club Naturo sur Nutri Radio. C'est déjà la dernière de la saison. Oh là là.
Ça passe trop vite. Bonjour tout le monde.
Et oui, pour la dernière, il fallait clôturer avec, l'original. L'original, c'est Alexandra Talositi. Bonjour Alexandra.
Salut Fabrice, salut tout le monde.
Ça va ?
En grande forme, il fait beau, il y a du grand soleil, ah, vive l'été.
Ça fait du bien, vive l'été, vive la vie, vive la naturopathie, vive... qu'est-ce qu'on peut dire encore pour durer un petit peu plus longtemps ?
Ça y est, vous êtes déjà chaud là, hop.
Ah oui,
non, c'est non. Bien, vive la vie, moi ça va bien.
Vive la vie avec Alexandra Talositi, en plus ça rime Alexandra qui, dans ses émissions au Club Naturo, eh bien, reprend ce concept de coup de boost, qui, voilà, une émission que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver en podcast hein, sur les plateformes et sur Nutri Radio. Le principe est le suivant. Alexandra répond aux questions de vous, chers professionnels du bien-être, et aussi des usagers qui pourraient se poser des questions. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On l'a vu tout au long de ces semaines. Et là, on finit, en réalité, le lot de questions qu'on a reçues. On en a reçu un petit peu moins ces dernières semaines, on va pas se mentir, mais c'est vrai que le format mensuel, pour que vous puissiez vous repérer, il n'est pas forcément évident. On fera mieux la saison prochaine, mesdames, messieurs, on fera mieux. Vous voulez, Alexandra, du lundi au dimanche, on ne peut pas. Elle est trop chère. Elle est trop chère. Cette femme est trop chère.
Arrêtez Fabrice, déjà le mois dernier, je vous avais dit, tout le monde sait que je bosse bénévolement pour Nutri Radio. Vous pourrez payer mes confrères beaucoup mieux. Et moi, si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble, ça sera toujours avec grand plaisir bénévolement pour soutenir les professionnels du bien-être et les usagers. Après, vous avez quand même pas mal de questions, même s'il y en a moins, il y en a encore.
Ah oui.
Et puis, est-ce qu'ils pourront en laisser pendant les vacances des questions pour la rentrée, ou vous ne savez pas encore ?
Moi, je suis partant du travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que les gens peuvent laisser leurs questions quand ils veulent, n'importe quelle heure, sans aucun problème, 365 jours par an. Par contre, nous, on y répond une journée par an. C'est... on consulte les questions.
Ah, bravo.
On n'a pas une réactivité.
Arrête, on imagine que votre équipe ne fout rien de la semaine, alors qu'elle bosse quand même.
Ouais, non, mais bon, voilà, si vous voulez, on est là, on bosse. Mais c'est vrai que sur les réactivités aux messages, et pardonnez-nous, chers auditeurs, c'est améliorable. Il y a une marge d'amélioration. Par contre, on prend tout en compte quand même. Et regardez, par exemple, aujourd'hui, répondre à cette question de Daniel qui nous demande comment repérer un praticien dangereux ou peu éthique. Est-ce qu'il y a des signes d'alerte ?
Bah écoutez, excellente question. Alors déjà, concernant l'éthique, il y a de nombreux professionnels du bien-être qui sont engagés à respecter une charte d'éthique ou une charte de déontologie s'ils sont partenaires d'organisations professionnelles. Vous pouvez aller voir, par exemple, le syndicat que je préside, qui est le syndicat des professionnels de la naturopathie. On a une charte d'éthique pour les naturaux et on est signataire de la charte d'éthique et de déontologie de la Chambre nationale des professionnels libéraux. Si votre professionnel dit qu'il respecte une charte, bah, c'est déjà rassurant, parce que les organisations professionnelles contrôlent le respect de la charte. Ensuite, s'il est dangereux, c'est que vous allez voir sur son site internet que le professionnel dit qu'il va vous guérir, dit qu'il doit, que vous devez arrêter toute prise en charge médicale en complément de sa prise en charge. Tout ça, c'est de la dérive sectaire. Et effectivement, ça prouve qu'il est dangereux. Et enfin, en tant que professionnel du bien-être, on accompagne des vrais humains. Donc, on a aussi des risques dans nos prises en charge, donc il y a des contre-indications. Si jamais un professionnel du bien-être qui a une prise en charge assez soutenue vous dit qu'il n'y a aucune contre-indication et aucun risque d'interaction, fuyez, c'est qu'il ne maîtrise pas bien ses limites d'exercice, alors que bah, notre cadre, c'est maîtriser nos limites, savoir où est-ce qu'on a le droit de bosser et là où on a peu pu bosser. Voilà les idées qui me viennent tout de suite là, en speed. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Fabrice ? Oui, si vous impose un forfait sur plusieurs mois sans vous expliquer les objectifs et les besoins, fuyez aussi.
Vous savez, ça me rappelle une question qu'on nous avait posée sur une naturopathe, je pense, qui voulait prendre l'initiative de faire une offre illimitée, vous vous souvenez ?
Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, bah effectivement, offre illimitée, pourquoi, comment, il faut quand même poser un cadre et il faut que l'usager soit conscient de bah, si l'intérêt d'être accompagné sur 12 mois pour préparer un championnat en sport ou pour améliorer son potentiel cognitif, très bien, mais s'il n'y a pas d'objectif réel et que c'est juste pour prendre votre argent, voilà. Nous, en tant que professionnels du bien-être, on vous propose des programmes naturopathique, sophrologique, hypnose, n'importe quel type de programme pour vous amener vers un objectif, et c'est vous qui nous posez l'objectif en tant qu'usager, c'est pas nous qui sortons ça de notre chapeau. Donc, et par contre, c'est nous les experts, on sait combien de temps il faut pour qu'on puisse vous amener et que vous puissiez atteindre cet objectif. Faut être vigilant. Après, je le redis hein, pour les usagers qui nous écoutent, 99,9% des professionnels du bien-être sont extrêmement compétents, ne sont pas des arnaqueurs, sont extrêmement bien formés. Mais vous avez vos raisons de vous méfier. Il y a un petit pourcentage de gens qui font n'importe quoi. Ces gens-là, il faut juste arrêter d'aller les voir et ils déposeront le bilan très rapidement. Le nettoyage se fera de façon naturelle.
Tiens, on enchaîne avec une question de Patrick dans la continuité un petit peu, qui nous demande pourquoi les institutions restent-elles frileuses face aux naturopathes notamment ? Sommes-nous condamnés à rester dans l'ombre malgré notre utilité ?
Excellente question. Je trouve qu'ils sont quand même de moins en moins frileux ces dernières années. Vous avez vu qu'il y a des fiches métiers qui ont été validées par les instances et par le ministère du Travail et donc qui sont utilisées comme support lors des contrôles de la répression des fraudes pour qu'on arrête de nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ça alors que ça fait partie de nos pratiques. Donc ça, c'est pour la naturopathie. Vous pourrez retrouver les fiches métiers sur le site du syndicat des professionnels de la naturopathie. Et puis, on a quand même été reçus ces dernières années auprès de nombreuses instances, santé, travail, et autres. La difficulté, c'est le ministère de la Justice, hein, je vous le dis très clairement. C'est qu'on est régi pour l'instant par le code du commerce, qu'il y a beaucoup de professionnels qui respectent totalement le code du commerce et il y en a deux, trois qui font des bêtises et on les empêche pas d'exercer, on leur met pas d'amende. Donc moi, je dis que c'est aux instances judiciaires de poser les choses. Et puis nous, on a quand même des normes qui sont en cours d'écriture, en réflexologie, en naturopathie. On a déjà une norme qui est sortie en sophrologie. J'espère que 2025-2026, on verra des normes métiers dans d'autres pratiques, le massage, la kinésiologie, pourquoi pas, l'hypnose, pourquoi pas, ou des techniques énergétiques. Ça prouve quand même notre déontologie, notre pratique du métier, la formation nécessaire pour qu'on puisse être compétent et accompagner l'usager. Enfin, moi qui exerce depuis plus de 20 ans, j'ai quand même vu une nette amélioration. Et puis, on a de plus en plus de professionnels de santé qui nous adressent leurs patients en consultation. Ça veut bien dire qu'ils sont conscients qu'on est capable d'accompagner des gens pour améliorer leur confort de vie.
Et oui, cette vision intégrative de la santé, moi j'adore, on adore, hein, c'est binôme, en tout cas c'est médecins qui travaillent en lien avec des professionnels du bien-être, professionnels de santé, professionnels du bien-être, c'est le duo gagnant. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, Alexandra, on va marquer une toute petite pote.
C'est bien, un peu d'orthophoniste pendant l'été, ça sera parfait. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a en santé intégrative, orthophoniste, ça se marierait avec quel praticien, quel professionnel de santé ?
Un orthophoniste, donc qui est professionnel de santé, oui. Et puis pourquoi pas un hypnothérapeute pour faire lâcher les barrières mentales qui peuvent vous faire fourcher la langue.
Ouais, je crois que c'est le bon combo. Allez, petite pause et on se retrouve juste après ceci.
Club Naturo sur Nutri Radio.
On répond à vos questions, plutôt Alexandra Taloziti répond à vos questions cette semaine dans Club Naturo. Alors, en préparant cette émission, on a parlé de compléments alimentaires. Et quand je dis préparer cette émission, c'est quelques secondes avant la prise d'antenne.
J'aime votre honnêteté, Fabrice.
Ah, il faut tant que faire se peut un minimum, voilà, on va dire à 90%. Il reste 10% de mystère, le mystère de la radio. Donc, vous avez fait un article sur le blog, sur le site du syndicat de la naturopathie, hein, SPN, donc c'est syndicat-du6naturopathie.fr, sur le cadre légal concernant les conseils en compléments alimentaires sans formation. Et je révèle un petit peu les coulisses parce que justement, on avait une question de Nicole qui nous posait, alors j'ai perdu la question évidemment, oui voilà, peut-on conseiller des compléments alimentaires sans prescription médicale ? C'est pour ça que je me permets de faire cette petite révélation sur la conversation hors antenne qui rejoint la question de Nicole.
Parfait, Nicole, excellent conseil, excellente question. Donc quand on conseille du complément alimentaire, il y a plusieurs options. Soit nous sommes formés en complément alimentaire, formés en micronutrition, en phytothérapie, en aromathérapie, suivant le type de complément alimentaire que l'on va conseiller. Ou alors, nous ne sommes pas formés et on doit dire à nos clients que nous sommes autodidactes. Ensuite, suivant les compléments alimentaires et les traitements de votre client, il se peut que vous ayez besoin d'une prescription médicale ou d'un accord médical pour conseiller du complément alimentaire. Certains oncologues, par exemple, ne souhaitent pas qu'on conseille de compléments alimentaires parce qu'ils sont en protocole d'essai. Et dans le cadre d'un protocole d'essai, on ne peut pas conseiller de compléments alimentaires. Donc, ça vaut le coup d'avoir le go ou le no-go de l'oncologue quand on veut conseiller des compléments alimentaires pour soutenir notre client qui est en traitement de chimiothérapie, par exemple. Après, si vous avez quelqu'un qui a pas de soucis de santé particuliers, qui va bien, qui a un suivi régulier chez un médecin et que vous êtes compétent pour conseiller des micronutriments, de la phytothérapie, de l'aromathérapie, de la mycothérapie, vous pouvez le faire sans aucune difficulté, Nicole. Et si votre client a un doute, il y a un professionnel, et vous savez, je le dis souvent et je fais pas mal d'interventions sur le sujet, il y a un professionnel qui est très compétent, ça s'appelle un pharmacien. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire à votre client, allez voir votre pharmacien chez qui vous allez pouvoir acheter le complément alimentaire et demandez-lui s'il n'y a pas de risque avec votre traitement médicamenteux. Donc, s'il n'y a pas le médecin, il y aura le pharmacien. Et au moins, vous pourrez proposer un parcours sécure à l'usager.
J'ai éteint mon micro, pardon, pour vous écouter. Tiens, et d'ailleurs, on va continuer dans cette lignée de recommandations, avec une question de Michel sur le CBD. Voilà. J'ai pris l'habitude de recommander du CBD à certains de mes clients. J'ai entendu qu'il allait bientôt être interdit. Qu'en est-il ?
Alors, il y a beaucoup de bruits de couloir qui sont des fois des bruits de couloir simples. Hein. Donc moi, honnêtement, venant des instances ministérielles, et vous savez, hein, je suis conseillère aussi à la CNAM et à l'UNCAM, hein, donc je sais ce qui se passe au niveau de la sécurité sociale, il n'y a pas d'information. Il y a juste que la répression des fraudes vient encore plus contrôler les laboratoires qui distribuent du CBD, comme ils sont déjà quand même très, très fortement contrôlés. La difficulté, ce sont des commerces qui distribuent du CBD sans avoir de contrôle. Les laboratoires de compléments alimentaires qu'on connaît, Fabrice, que vous pouvez découvrir sur nos sites, aussi bien sur Nutri Radio que sur le site du syndicat de naturopathie, eux, ils sont déjà fortement contrôlés, il n'y a pas de difficulté pour le CBD. Par contre, il y a d'autres petits commerces qui vendent n'importe quoi avec des traces de THC, et là, ceux-là, ils n'auront plus le droit de le distribuer. Donc, soyez rassurés, les laboratoires de compléments alimentaires qui proposent du CBD, il n'y a pas de raison qu'ils aient plus le droit de le proposer.
On va enchaîner avec une autre question sur les ingrédients. Comment savoir si une molécule naturelle comme la spermidine ou l'ashwagandha repose sur des preuves solides ou c'est juste du buzz marketing ?
Alors déjà, en ashwagandha, par exemple, on a beaucoup de souches qui sont titrées. Donc, suivant les laboratoires que vous allez choisir, vous allez pouvoir choisir un laboratoire qui décide de travailler avec une souche titrée. Au moins, ils vont vous donner l'information du sourcing, savoir comment est-ce qu'ils ont été chercher cet ashwagandha. Et puis, je pense que sur l'ashwagandha, clairement, on a beaucoup, beaucoup de méta-analyses sur les bienfaits de cette plante. Donc, moi, je dirais contrôler le dosage, contrôler le sourcing. Et si c'est un ashwagandha titré, vous pouvez lâcher prise, ça sera fortement qualitatif et vous pouvez être sécurisé pour votre conseil. Et puis, effectivement, il y a des labos, en France, pas trop, mais un peu aux États-Unis, un peu au Canada, qui mettent de la poudre de perlimpinpin et très peu d'ashwagandha. Là, clairement, c'est juste pour faire le buzz parce qu'il n'y a que dalle comme ashwagandha dans leur gélule. Donc, observez quand même le dosage de vos ingrédients.
Et merci à Sabine pour cette question. Tiens, on pourrait d'ailleurs, dans le prolongement, parce qu'elle parlait de spermidine, d'ashwagandha. Bon, spermidine, c'est un peu moins connu, mais on en parle de plus en plus. En revanche, le collagène, par exemple, est-ce que vraiment c'est le rôle d'un naturopathe ou d'un professionnel de bien-être d'aller, par exemple, sur les réseaux sociaux, nous faire des mini-stories, des trucs, des machins, sur le côté un peu médicamenteux, médicamenteux, j'aime même pas ce terme, mais sur ce côté vraiment bénéfice santé du collagène, on a l'impression plutôt que c'est une mode marketing et que ça dessert ces professions.
Alors, le collagène, on a énormément d'avantages au conseil du collagène. On l'a vu pour certaines pathologies comme la fibromyalgie il y a de nombreuses années où il y avait des études qui étaient sorties sur l'intérêt de supplémenter en collagène en complément d'une prise en charge de fibromyalgie, par exemple. Un naturo a tout à fait le droit d'être influenceur. Il y a une loi d'influenceur. Je l'ai cité dans l'article que j'ai rédigé avec l'équipe juridique sur les compléments alimentaires. Si vous avez envie de faire des petites vidéos, faites attention quand même. Parce que les allégations thérapeutiques, quand on parle d'un laboratoire, un laboratoire n'a pas le droit de faire d'allégations thérapeutiques. Nous, professionnels du bien-être, non plus. Donc, faites attention à ce que vous dites. Il y a une différence entre j'ai essayé du collagène et je trouve que j'ai une meilleure récupération post-entraînement. Ça, vous faites un témoignage. Plutôt que de dire avec ce collagène, vous allez avoir moins de douleurs ostéo-articulaires ou moins de douleurs musculaires. Ça, c'est une allégation thérapeutique. Faites attention, la limite est assez
fine. Alors, attends, ça veut dire que si on fait une story en disant ce collagène va réduire les douleurs inflammatoires et est efficace pour l'élasticité de la peau, c'est incroyable, danger. Si on dit j'ai essayé ça, ça m'a réduit mes douleurs articulaires et mon élasticité de peau est incroyable, là c'est autorisé.
Bah, c'est un témoignage. Je témoigne à quel point je suis devenue super fraîche en consommant ce collagène. Ouais. Et l'autre, c'est une allégation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on fait imaginer que ça peut être efficace pour tous les usagers.
Ouais. Ok, bon, quand même, effectivement, vous l'avez rappelé, la frontière, elle est très mince. Hein.
Elle est très mince. Et après, je vous le dis, en tant que professionnel de l'accompagnement, où on décide de partager nos témoignages parce que ça peut être une bonne idée, où on décide d'être influenceur, mais de toute façon, les usagers qui vont voir la vidéo sauront que vous êtes influenceur pour telle marque ou telle marque, et c'est normal que vous mettiez l'accent sur cette marque-là, étant donné que vous percevez des indemnités.
Mais qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs, cette loi influenceur ?
La loi influenceur, elle dit qu'on doit informer l'usager qu'on est payé par la marque pour la mettre en avant. Donc au moins, l'usager sait que ce n'est pas un témoignage lambda, c'est vraiment un partage parce qu'on gagne de l'argent avec cette marque.
Très bien, mais on est d'accord que c'est une loi influenceur générale, c'est-à-dire que ça...
Ah vaut... oui, bien sûr, c'est tout, tout professionnel qui décide de mettre en avant une marque doit avoir un contrat d'influencing, doit déclarer ses charges sociales par rapport à ça, doit payer ses impôts, la marque déclare au fisc ce qu'il a payé à l'influenceur, qui peut être un naturopathe, un nutritionniste, un sophrologue, que sais-je. Et il faut absolument que dans tous ses supports de communication, il précise qu'il est partenaire ou ambassadeur de la marque.
Alors, moi, Alexandra, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'on a une petite musique pour la question là ? Attendez. Non, c'est pas du tout la bonne musique. Non, ce que je veux dire, c'est que avant... C'est quoi mon avis, hein, c'est vraiment une question. Ce collagène, il m'a vraiment changé la vie. Non, je plaisante. Un témoignage. Non, non. La question, c'est il y a quelques années, on voulait devenir naturo parce qu'il y avait vraiment cette notion de bien-être, d'accompagnement. On était dans un secteur peut-être qui était différent et d'un seul coup, on a une révélation. On travaille sur, souvent l'histoire, on a une maladie, on travaille sur soi et on découvre, machin. Et bon, on devient, tu vois, on s'intéresse vraiment à la santé et à la santé des autres. Et on ouvrait aussi un petit compte et on faisait du réseau, un peu de réseaux sociaux. Aujourd'hui, est-ce que devenir naturo, par exemple, hein, mais vraiment, c'est une question, c'est pas un prétexte vite pour devenir influenceur? Et donner des conseils, mais vraiment, on s'intéresse plus à sa communauté, à comment gagner de l'argent sur la plateforme, à devenir un influenceur, qu'être un vrai naturopathe.
Non, je pense pas, parce que bah, y a deux choses. Hein. Y a le gars qui s'est formé à rien, qui n'est pas naturopathe, qui a envie d'être influenceur, ok, très bien. Il est influenceur, mais il doit dire qu'il est autodidacte, par exemple, quand il conseille des compléments alimentaires. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai fait cet article. On peut très bien décider d'être VDI, de vendre des compléments alimentaires, mais on doit aussi dire qu'on est autodidacte, donc on n'est pas capable de conseiller. On doit juste recommander une marque. Ça, c'est ce que font les VDI dans le monde du complément alimentaire. Et quand on est naturopathe, qu'on investit 2, 3, 4 ans de sa vie à faire plus de 1200, 1600, 1800 heures de formation, à faire un mémoire et pour accompagner l'usager, et qu'on décide de faire un peu de vidéo et de l'influence, c'est pour faire du plus et pour développer son entreprise de façon différente. Donc, je vous recommande pas d'aller faire une formation de 4 ans en tant que naturopathe si vous voulez juste recommander des marques et ne pas avoir envie d'accompagner les gens et les usagers.
Alexandra,
moi, les naturaux qui font ça, ils ont leur cabinet, Fabrice, et en plus, ils ont leur activité d'influenceur.
Ouais, d'accord, mais là, vous parlez du cerque vertueux et de la formation vertueuse du naturo. Moi, je vous parle de ces formations un peu plus confidentielles qui permettent de dire qu'on est naturo. Et voilà.
Il y en a plus beaucoup, hein, parce que la législation de la formation s'est durcie depuis 2017.
Est-ce qu'aujourd'hui je peux être naturo, moi, demain, et mettre comme avant, vous savez, pareil pour les hypnothérapeutes, on peut mettre un cabinet, enfin une plaque sur un cabinet et dire je suis hypnothérapeute en ayant zéro formation ou quasiment pas. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas...
Vous pouvez le faire en mettant hypnothérapeute autodidacte sur votre plaque, sur tout support de communication. Sinon, vous risquez une amende de 144 000 euros.
D'accord, mais on peut quand même se dire naturo. Et par exemple, sur ces formations aujourd'hui, il y en a encore des formations qui permettent d'être naturo ou en 3 mois, 2 mois ou à correspondance.
Non, plus naturopathe. On peut être conseiller en hygiène de vie. Naturopathe, non, non. Les organismes de formation sont très qualitatifs et voilà. Le naturopathe, c'est un professionnel qui a des techniques manuelles, qui a des techniques de réflexologie. On ne peut pas faire ça 100% en ligne. Ça a beaucoup bougé. J'espère que lorsque la norme sera actée, ça permettra encore plus d'aider les usagers et les futurs naturaux à bien choisir leur formation. Mais non, non, on ne peut pas se former en 2 mois 100% en ligne pour être naturopathe.
D'accord. Donc aujourd'hui, ça ne passe plus. Quelqu'un qui, enfin, un naturo aujourd'hui, donc c'est déjà assez rassurant. On peut plus être naturo ou se dire naturo si on n'a pas un certain nombre d'heures de formation. On est d'accord.
C'est pas seulement un nombre d'heures, c'est un bloc de compétences, des modalités d'évaluation. Et après, il y a beaucoup d'organisations professionnelles qui travaillent ensemble. Toutes les organisations professionnelles françaises, on bosse ensemble. Ça a tiré vers le haut. Et après, aux usagers, quand vous voyez des écoles qui sont partenaires de personnes et qui vous disent non, c'est de la merde des partenaires d'une fédération parce qu'ils nous servent à rien, bah, posez la question. Est-ce que vos professionnels peuvent être contrôlés par la répression des fraudes? Est-ce que si on fait pas de présentiel en tant que naturopathe, on aura des ennuis avec la répression des fraudes? Et qui vous l'écrivent noir sur blanc, que ne pas venir faire des techniques réflexes ou de massage en présentiel ne vous met pas en danger pour la suite de votre pratique. J'ai aucune pseudo-école qui font des traces écrites. Voilà, donc c'est aussi aux usagers qui choisissent une formation, arrêtez de vous faire enfumer, arrêtez de vous faire endormir. Réveillez-vous. Quand on vous dit vous allez être naturopathe à 250 heures de formation, ça vous coûte 1800 balles, tirez-vous. C'est pas jouable. Parce que tu vas pas pouvoir accompagner des gens à conseiller autant de choses sans que tu les aies appris et sans que tu te sois remis en question, challengé avec des formateurs.
Ouais, mais sauf
fait si... plusieurs modalités d'évaluation.
Sauf si on a envie de payer 1800 euros pour être un influenceur et de raconter des choses et avoir une petite légitimité.
Bah, tu te diras pas naturo, tu te diras influenceur dans le milieu du bien-être. Et tu ne diras pas naturo. En tout cas, je te déconseille que je trouve ton poste de naturo parce que, en général, je t'envoie un petit contrôle.
c'est pas moi,
avec amour et bienveillance, hein, mais j'envoie un petit contrôle. Parce que dans les faits, il y a beaucoup trop de professionnels extrêmement compétents qui méritent qu'on les voit et qui développent leur cabinet. Et on ne peut pas laisser en face des pseudo-machins leur faire de la concurrence déloyale. C'est puni par la loi. C'est de la concurrence déloyale. On n'a pas le droit. Et moi, en tant que présidente d'un syndicat, je vous aime tous hein, quand vous respectez les lois. Dès que vous commencez à bouffer un peu dans la gamelle du voisin, je dis il faut arrêter les chouchous.
Bravo.
Il y a de la place pour tout le monde, hein, mais venez pas manger dans la gamelle du copain.
Bravo Alexandra. Là, c'est l'engagement. J'aime bien vous titiller sur ce sujet, mais c'est important.
Coup de boost. C'est moi. Moi, je vous ai boosté.
Merci beaucoup Alexandra. Bon, écoutez, on va se retrouver très vite sur Nutri Radio et sur les supports qu'on peut développer parce que vous savez que Nutri Radio, c'est aussi Nutri TV, c'est NutriCast, c'est la partie aussi événementielle, Nutri Talk Gala qui d'ailleurs arrive. Et puis voilà, à la rentrée, un petit support supplémentaire. On en reparlera. Merci beaucoup Alexandra.
Merci à vous Fabrice, à très vite.
Cette émission, vous la suivez et la réécoutez en podcast tout de suite si vous venez d'arriver, vous l'écoutez dans l'intégralité sans interruption sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et puis sur toutes les plateformes de streaming audio. Et tout de suite, c'est le retour de la musique.
Club Naturo sur Nutri Radio.